Salut, c'est Sophie de Hier dans le Var. Bonjour à tous, bonjour Daniel. C'est juste pour dire que tant que tu continueras à faire tes émissions, tant que le cauchemar de Darwin pourra passer dans les salles de cinéma, eh ben je suis contente et je me dis qu'il y a de l'espoir pour mes deux petites poupées que je viens de mettre au monde. Et je me dis que ça avance et que même si c'est pas simple et qu'on n'a pas le cul sorti des ronds, j'ai adoré aussi. Eh ben franchement, il faut y croire, il faut se battre et puis on va y arriver. On va y arriver. Allez, gros bisous à tous et il fait chaud mais c'est l'été. Bonne fête de la musique et au revoir.
Oui, bonjour. Je voudrais simplement demander à Monsieur Mermet s'il va nous emmerder avec ses émissions d'émago à la con sur les circulations. Quand c'est pas sur la circulation, c'est sur autre chose. Non, mais attendez, lui aussi, il est bien content de trouver son carton de lait chez Leclerc le matin. Et paraît-il qu'on transporte des Chinois dans les camions, mais il est bien content d'aller bouffer au restaurant chinois. Et il nous emmerde avec ses émissions à la con. Bah, passez-nous autre chose. Pitié. C'est dur d'entendre ça après Monsieur Lodéon. Allez, bonne fin de journée quand même.
Ouais, bonjour Daniel, bonjour à l'équipe. Je sais pas pourquoi j'ai peur tout à coup, c'était Liane Douessan, hein. J'ai peur tout à coup que l'honnêteté et l'objectivité de votre émission ne fasse que Daniel et puis toute l'équipe ne soyez virés à la rentrée de France Inter, dont on connaît la position avant le référendum. Vous êtes tellement bien que j'ai peur que vous teniez pas, vous soyez virés. Alors rassurez-moi, rassurez-vous, rassurez-nous. Si vous saviez comment on compte tous sur vous, bon sang nom d'un chien, vous êtes une sacrée colonne qui nous soutient. Allez, salut, au revoir, et puis répondez-moi, bordel, répondez-moi, salut.
Bonjour, c'est Bernard Denieux, je suis routier. Juste quelques réflexions comme ça, déjà, oui, Daniel Mermet, nous sommes très nombreux à t'écouter, nous autres les routiers, tout le monde n'écoute pas les grosses têtes, heureusement d'ailleurs, merci pour tes émissions. Je voudrais simplement faire quelques réflexions sans grande valeur, quoi. Mais c'est vrai que c'est bien que tu abordes le sujet des camions, la pollution, etc. Je comprends très bien le désarroi des gens de la Maurienne, de Chamonix, tout ça. Mais évidemment. Quand j'ai commencé à rouler, il y avait encore Max Meunier, on était des routiers sympas. Aujourd'hui, évidemment, on se réveille avec la gueule de bois, on voit arriver des camions de partout. Moi, je le vois bien au quotidien, ça devient insupportable. J'imagine aisément le sentiment que les gens peuvent avoir en voyant passer un camion toutes les 2 ou 3 minutes. C'est sûr. Moi, j'ai pas de solution malheureusement. C'est pas moi qui nous sortirait les fesses des ronces, c'est ça, c'est l'expression d'hier, si j'ai tout compris. Mais je crois pas qu'il y ait de solution malheureusement. Je suis pas défaitiste, mais faut pas se leurrer. Les Polonais, les Hongrois, enfin, c'est pas eux qui sont responsables de tout ça. Je veux dire, c'est un ensemble effectivement. Je sais pas à qui profite le crime. Enfin, en tout cas, nous, on est devenus des parias. Tous les matins, quand j'allume la radio, qu'est-ce que j'entends? Bah, un camion couché sur la route à tel endroit, une bagnole écrasée entre deux camions à un autre endroit, etc. Enfin voilà, quoi. On est devenus les cassos de l'Europe, quoi. Mais bon, j'ai pas de solution, mais c'est très très bien d'aborder le sujet. Et je crois que les gens simplement nous regardent différemment, quoi. Que on n'est pas tous des salauds, quoi. Moi, c'est surtout ça qui m'embête. Maintenant, si quelqu'un a une solution pour me reclasser, il y a aucun problème. Hein. Moi, c'est pareil. Hein. Quand j'étais môme, les camions me faisaient rêver. Aujourd'hui, bah, de toute façon, je sais plus rien faire d'autre. Il y a 25 ans que je roule. Et franchement, mon avenir, je le vois pas rose non plus. Hein.
Oui, bonjour, c'est Gabriel. Quand j'ai entendu parler des allers-retours des patates allemandes en Italie et des cure-dents américano-japonais, j'ai rêvé. J'ai rêvé de posséder le talent d'un Tex Avery mettant en scène un chef d'orchestre dingue qui dirigerait tous ces circuits qui se croisent, s'entrecroisent, se nouent, se dénouent et nous font crever. Ce serait une manifestation par l'absurde. On dit que le ridicule ne tue pas. Chiche.
Allô, bonjour, voilà une routière qui en a un peu sa claque d'entendre toute la journée des gens se plaindre des camions, mais ces gens-là, ils sont bien contents d'avoir les supermarchés pleins. Et quand on nous dit qu'est-ce qu'il y avait de si urgent dans ce transport, eh ben il faut le demander aux consommateurs. À bientôt sur la route, ciao.
Oui, bonjour, Anne-Sophie à Paris. Alors voilà, moi j'appelle parce que grâce à la fête de la musique, la mairie de Paris nettoie nos trottoirs. Donc, il y a deux charmantes personnes qui habitent sous un pont à côté de chez moi, à tous les sens du terme, au propre comme au figuré. Et bien, ce matin, la voirie vient de leur enlever leur matelas, car les voisins se sont plaints, la fête de la musique se prépare, et il faut nettoyer les rues. Donc, les voisins pourront dîner tranquilles ce soir, et pourront se regarder dans la glace demain matin. Marceline et Patrice seront toujours là, mais ils n'ont plus de matelas, donc le bitume de Paris sera un petit peu plus dur pour eux cette nuit. Merci la voirie, merci la mairie et merci aux charmantes personnes qui ont téléphoné pour que ces affreux matelas soient dégagés du trottoir. Au revoir.
C'est la fin de la fête de la musique. On est le 22 juin, c'est la nuit, enfin l'aube. Je viens d'assister à un truc épouvantable. Je suis passée à vélo sur les quais. Il est 3h30 du matin. Sur les quais en face de l'Institut du Monde Arabe, et je vois un cordon de CRS et des gens en train de fumer des cigarettes, de bavarder, etc. Et puis d'un seul coup, j'avais rien compris. Il y a eu une descente de flics, mais c'était du délire. Ils ont tapé sur tout ce qui bougeait. Ils ont attrapé une nana qui avait pris des photos. Une nana, ils s'y sont mis à trois flics. Je sais pas ce que c'est des milices, c'est des milices de Sarkozy, c'est insupportable. Et moi j'ai basculé de mon vélo, enfin je veux dire, heureusement je suis ni black ni jeune, mais c'est scandaleux, c'est plus que du scandale, on est en tyrannie, vraiment on est en tyrannie, je pèse mes mots, on sait pas. Ils ont attrapé un mec qui avait des béquilles, un black, ils l'ont couché par terre, ils lui ont fait une clé au bras. Je sais pas où il est, ce pauvre mec, il pleurait, quoi. Enfin, les gens sortaient des quais, ils venaient de faire de la musique, de... Voilà. Voilà, je sais pas quoi ajouter, je sais pas à qui dire tout ça. Personne ne le dit, naturellement, la presse est complaisante, la presse est aux ordres. Donc, ciao, salut.
Ouais, salut. C'est intéressant les propos du père Sarkozy, là, comme quoi il veut jeter les voyous hors de France. Bon, déjà, on peut toujours s'interroger sur le thème du voyou, ce suivant qu'on envoie le GIGN à la cité des 4000. Ou qu'on envoie le GIGN, par exemple, en rappel sur les façades de la Défense, avec des inspecteurs des finances, on ne trouvera pas les mêmes voyous. Mais surtout parce que, quand on a arrêté un voyou, qu'on l'a jeté en prison, on l'a pas jeté hors de France. Alors le voyou n'est pas français. Alors, l'idée de jeter tous les voyous hors de France, sous-entend, d'une part, que tous les voyous sont non français, et d'autre part, que la solution, c'est de les jeter hors de France. Si le deuxième propos est peut-être discutable, le premier ne l'est pas. Sarkozy, c'est pas la peine d'être grossier. Sarkozy, point. Allez, salut.
Voilà, on n'a pas le cul sorti des ronces, pour reprendre l'expression d'hier, et les routiers ne sont pas des blaireaux. Merci pour tous ces messages que vous avez laissés sur le répondeur de là-bas, si j'y suis. Continuez, routiers, ou tous ceux qui sont concernés ou intéressés par la question du transport routier, entre autres, dont nous avons parlé avec François Ruffin dans les deux dernières émissions. On aura des suites à ces reportages. Aujourd'hui, le tant attendu procès de NS. En effet, pour la première fois, nous avons pu introduire des micros dans l'enceinte d'un tribunal, le TIMF, c'est-à-dire le tribunal de l'incompétence au service de la mauvaise foi. On a pu dire que ce tribunal s'inscrit dans la tradition du tribunal pour rire, exemple jadis sur Radio Luxembourg, le dimanche, offert par la Bolle de Florine, la bonne tisane pour le foie. Le tribunal jugeait et condamnait le lampiste Le Guignon, alias le comédien Yves Degnaud. Autre exemple, le génial tribunal des flagrants délires du jeune retraité Claude Villers avec des proches Erego. Mais aujourd'hui, le TIMF, c'est plus que ça. Car le TIMF, tribunal de l'incompétence au service de la mauvaise foi, je le rappelle, préfigure la privatisation de la justice. En effet, dans un pays comme la France, où souffle le vent salutaire de la révolution néolibérale et où chaque jour tombent de nouvelles bastilles, comment accepter que la justice reste un monopole, encadré par l'État et financé par le contribuable ? Alors qu'il serait tout à fait possible d'ouvrir la justice au privé et à la libre concurrence non faussée. On verrait ainsi fleurir des tribunaux privés financés par des sponsors avec de la pub, Nike, Coca ou les cafés grand-mère, juges et avocats avec des robes siglées Adidas ou Ricard, le tout évidemment retransmis en direct sur TF1 avec de la vraie télé-réalité. Eh bien, le TIMF préfigure le tribunal de l'avenir et la justice du futur néolibéral. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que ce tribunal siège. Souvenez-vous, il y a quelques mois, le procès d'un certain JC que vous aviez suivi avec un certain intérêt. Alors, qui se cache derrière le sigle TIMF ? Il faut bien avouer que pour l'instant, il faut le reconnaître, il faut être objectif, il s'agit bel et bien d'une bande de bras cassés. Chercheurs, sociologues, journalistes, chroniqueurs de journaux satiriques, écrivains qui font leur succès sur la misère du monde, dessinateurs soi-disant politiques, avocats soi-disant authentiques, musiciens gavés de subventions, chercheurs et sociologues qui viennent mordre la main qui les nourrit. Il est vrai que pour l'instant, dans l'état actuel, ce personnel serait à revoir. Alors, une autre question qui se pose, qui est le mystérieux NS ? Eh bien, c'est ce que vous allez découvrir. Vous pouvez aussi poser une autre question. Pourquoi ce projet ? Eh bien, les Italiens ont eu Berlusconi, les Américains ont eu W. Bush, aurons-nous NS, car on peut rapprocher les trois figures, les stratégies se ressemblent, le marketing électoral, la com, l'image, la gesticulation médiatique, la fanfaronnade. Mais il faut aussi préciser avant de commencer que cette audience du tribunal du TIMS que vous allez entendre a eu lieu avant le retour de NS à la maison, c'est-à-dire dans son petit intérieur, et avant que les Français xénophobes ne disent non, et donc avant que NS ne pète les plombs et ne s'engage à nettoyer certaines parties de la France au Karcher, pour évidemment la plus grande joie de ses concurrents. Mais ceux-ci ne perdent rien pour attendre. Prochainement dans votre transistor, vous aurez le procès d'un certain DCB, c'est-à-dire Danny Cohn-Bendit, et d'autres dossiers à venir, Fabius, dossier Buffet, et même peut-être le dossier Beauvais, pourquoi pas, et même un certain D2V, qui, selon nos renseignements, aurait déjà pris lui aussi des renseignements sur les pays qui n'ont pas de convention d'extradition avec la France. C'est jusqu'à 18h sur France Inter, et c'est là-bas si j'y suis.
La cour.
Alors, c'est avec Jérôme Bourdelon et son orchestre, le BIM, la Brigade d'Intervention Musicale, avec les dessinateurs Cabu, Pierre Leroux, Luz et Jules, avec des journalistes, Frédéric Pagès, Nicolas Beau, Bernard Maris, avec des avocats, comme Maître Braun, comme Christophe Clerc et Claire Doublier, avocat de la Défense, avec des papous, comme Hervé Letellier, expert psychiatrique, Henri Cueco, artiste peintre, Gérard Mordillat, écrivain populiste et procureur de la République, avec le sociologue sarcologue Laurent Bonelli, avec les sarcophobes Saïmir Millet, chercheur albanais, Camilla Cabral, élu du 17e arrondissement, avec Daniel Herzog, voix des Guignols, et avec les révélations exclusives de Bertrand Roté, majordome au ministère des Finances.
Flight
number two, arriving from...
Affaire Sarkozy-Nicolas, accusé de harcèlement médiatique, racolage électoral dans des lieux publics avec exhibitionnisme conjugal, populisme sécuritaire aggravé, manipulation de chiffres en réunion, association de malfaiteurs en vue d'inciter à la tziganophobie, incitation à la domination ultralibérale en bande organisée, etc. Faites entrer l'accusé.
Oui, monsieur mon président, sévère mais juste. Monsieur l'ersatz de représentant d'un ministère public en décrépitude. Monsieur toujours ce même sinistre fossoyeur d'un parquet vermoulu accusateur d'âmes innocentes. Monsieur le gauchiste patenté qui prend son travers politique pour de la droiture. Le petit aux grandes oreilles est absent. Et il est, monsieur le procureur, car vous, Fouquet-Tinville, d'un soir, vous lui avez fait interdiction d'entrer ici. Délibérément, vous ne l'avez pas convoqué, de sorte qu'il n'est pas là. Et la raison, elle en est très simple, monsieur le procureur. À quoi bon, moi ? Monsieur le procureur Mordilla, éminent représentant de l'ordre social, 10 heures de vérité immanente, au nom de quoi devrais-je consacrer du temps, de l'énergie, à écouter les divagations d'un hydrocéphale essoré qui tapine avec l'air du temps ? À moins, que l'absence voulue par vous, souhaitée, espérée de Nicolas, est une cause pire encore que cette étrange conception que vous avez de la démocratie, la peur. La peur de la contradiction d'avec le Mozart de la sécurité, le Beethoven de l'économie, le Zizou de la politique, le Pandore de la conviction, la peur encore de n'avoir rien à répondre à l'axiome sarkozien numéro 1, les idées ne valent que si l'on arrive à en convaincre le plus grand nombre. La peur toujours d'entendre résonner au tréfonds d'un petit cœur de procureur qui battrait encore la citoyenneté. Cette musique à la Jacques Lang, sans gâte, double peine, Sarko, il l'a dit, c'est un type de parole, un pro. Eh oui, monsieur le substitut, pendant que certains fumaient encore du hakik sur les bancs éculés d'une xième année de faculté imbécile, d'autres prenaient déjà d'assaut la mairie de Neuilly à la barbe de Charlie. Il avait 28 ans, le petit salaud. Et vous savez quoi ? 20 ans plus tard, bâillonné par une procédure inique, acculé à l'absence et au silence, l'ami Sarko jubile d'avance aux contorsions d'un parquet qui n'a pas l'ombre d'une casserole à lui coller au basque.
Je répondrai plus tard. Alors, nous allons procéder à l'audition des témoins. Et j'appelle à la barre Monsieur Maris Bernard, dit Oncle Bernard, spécialiste en expertise, journaliste et économiste, surnommé le Jean-Marc Sylvestre de l'altermondialisme, à qui... Nous allons demander de dresser le bilan de la politique économique de Sarkozy, Nicolas, l'ami des riches. Monsieur
le Président, je suis ici pour pour témoigner de la qualité de gestionnaire en matière de finances, de politique économique et industrielle de Nicolas Sarkozy de Nagy Boxa de Hongrie. Je rappellerai que M. Sarkozy était ministre du budget de 1993 à 1995 de M. Balladur et 1993 est cette année terrible où Eddy Constantine et Pierre Bérégovoy sont morts et où Sylvie Fréchette a récupéré le titre rétrospectif de médaille d'or en âge synchronisé. Le 1er avril 2004, Monsieur le Président, le 1er avril 2004, Jacques Chirac nomme Nicolas Sarkozy ministre d'État de l'économie, des finances et de l'industrie. Nicolas Sarkozy succède à Francis Maire et ferme ainsi la parenthèse d'une longue série de personnages assez lamentables et heureusement disparus de la scène politique. Alain Madelin, Jean Arthuis, Dominique Strauss-Kahn, Christian Sauter et... bande de minables, Laurent Fabius. L'action de Nicolas, Monsieur le Président, se situe sur trois plans. La défense industrielle de la France, le rééquilibrage du budget, la hausse du pouvoir d'achat des consommateurs. Alors, la défense industrielle de la France, Nicolas Sarkozy a réussi à éviter le démantèlement d'Alstom, fabricant de turbines et de motrices de TGV. Après une rallonge publique de quelques milliards d'euros, les Français peuvent toujours être exploités par les Français. Ils sont contents. Et maintenant, EDF. Comme vous l'ignorez sans doute, Monsieur le Président, EDF est occupé par le Parti communiste français et la CGT, sa courroie de transmission depuis la Libération. Eh bien, Nicolas a réussi à transformer cette chose en société anonyme. Il a transformé le statut d'EDF, établissement public, industriel et commercial, en société anonyme, en société par action, Monsieur le Président. Avec promesse de... Pardon, excusez-moi. Avec promesse de ne pas vendre ses actions, bien entendu. Tout au moins d'en garder 70% au minimum. Pourquoi ? Parce que le nucléaire en France, bien sûr, disait-il, est une affaire publique. En même temps, il préparait la privatisation d'Areva, le fabricant de centrales nucléaires. On pourrait ne pas le mettre au procès-verbal, si possible. Ça pourrait être... bon. Et puis, Nicolas a poussé un grand coup de gueule contre les délocalisations en disant que c'était comme l'insécurité. Ce n'était pas un fantasme et qu'il fallait avoir peur. Trembler, futur chômeur. Pendant son passage aux finances, le chômage a légèrement augmenté, mais le chômage est une bonne chose, car ça empêche les salariés de râler. Bon, je fais en parenthèse. Alors, le rééquilibrage du budget. Nicolas a récupéré une soulte d'EDF. Il a siphonné un fonds de retraite d'EDF pour faire passer 7 milliards sur le budget de l'État. Ensuite, il a augmenté la CSG. Et puis, il a, pour ça, pour financer la baisse de l'impôt sur le revenu. Puis, il a réduit un petit peu, mais tout, très peu, mais ça se voit pas. Ça se voit pas. Il a réduit un petit peu l'assiette de l'ISF, et puis voilà. Et enfin, il a accru le pouvoir d'achat. Comment? Eh bien, en faisant appel au bon sentiment, des banques et de la grande distribution. Et en exonérant d'impôts, les donations parents-enfants. En allégeant l'impôt sur les successions aussi. Et en augmentant les exonérations fiscales sur les emplois à domicile. Ce qui fait que depuis ce temps-là, Monsieur le Président, eh bien, les riches créent des emplois pour les pauvres.
Monsieur Bernard Maris, lors de l'instruction, vous avez déclaré, mais c'était off, il a réussi à plumer la volaille sans la faire crier.
Oui,
vous confirmez?
Effectivement, il a été assez habile, je veux dire, en basculant un petit peu les impôts, vous voyez, sur les gens qui en payaient beaucoup, c'est-à-dire l'impôt sur les revenus, vers des impôts un peu plus indolores que tout le monde paie, comme la CSG, la contribution de solidarité, aussi des petites choses comme ça. Ah, ça, c'est mineur, Monsieur le Président. C'est
bon. Très bien. Y a-t-il des questions, la défense, Monsieur le procureur?
Oh, juste une précision. Vous nous avez dit que Monsieur Sarkozy a aussi proposé de supprimer les CDI qui sont un obstacle à l'emploi.
Allez, ça c'est la flexibilité, Monsieur le procureur. La mobilité. Il faut être mobile, vous comprenez. Il faut que le marché du travail soit fluide, efficace, vous voyez. Parce que c'est l'ouvrier, il a tendance à être comme la moule accrochée à son rocher, vous voyez. Un peu comme une arapède. Hein, si on le bouge pas un peu, il va rester coincé. Et alors là, se créent des privilèges. Alors vous avez un tas de trucs qui se créent. La fonction publique, excusez-moi. Non mais on va dire plutôt... Vous voyez, EDF, la SNCF, tous ces gens qui prennent les usagers en otage, tout ça, c'est absolument lamentable. Donc, ça, flexibiliser, vous voyez, hein, c'est alors, souple.
Diriez-vous que, dans la pensée de M. Sarkozy, le travail est un obstacle à l'emploi?
Oui. Mais le problème, si vous voulez, c'est que, oui, d'une certaine manière, les salariés sont un obstacle à l'emploi.
J'en prends bonne note.
Monsieur Maris Bernard, la Cour vous remercie.
Merci, Monsieur le Président.
Bien, nous allons écouter, entendre Le témoin suivant, qui est un témoin qui a tenu à garder l'anonymat.
Nicolas, je veux te féliciter. Tout ce que j'ai rêvé de faire, tu l'as réalisé. Moi, quand je voulais faire une petite réforme, toute la gauche me tombait dessus à bras raccourcis. Toi, Nicolas, quand tu fermes Sangatte et que les réfugiés partent vivre avec leurs enfants dans les terrains vagues, Jacques Lang te félicite. Le Jacques Lang te félicite. Ah, moi, quand j'ai voulu interdire que les mineurs accèdent à des revues où des femmes subissaient d'horribles sévices sexuels, Jacques Lang m'a présenté comme le Pinochet de la culture. Avec toi, le ministre de l'Intérieur a retrouvé son lustre. Tu lui as montré au commun, là, le Dominique Perbène qui était le chef. Tu lui as écrit ses lois, tu as eu les félicitations, tu les emmerdes petit, tu as du génie. La justice obéit à la police, les avocats vont en prison, la gauche te félicite pour la double peine. C'est bien comme ça que tout doit fonctionner, une république moderne. Les écoutes ont augmenté de 460%. Je parle des écoutes officielles, pour les autres, j'aimerais que tu me donnes les vrais chiffres, tu me ferais plaisir. Tu sais, les écoutes, c'est bien. Ça donne du travail aux agents de police, aux agents des PTT, aux plombiers, aux revendeurs de matériel spécialisé, aux agents de sécurité, aux Corses. Ouais, ça te fait une petite clientèle. Tu sais, Nicolas, quand tu étais petit, tu m'as volé la mairie de Neuilly pendant que j'avais le dos tourné. Je ne l'ai pas oublié, mais je t'ai pardonné. Tu es un peu comme mon fils, ou plutôt mon filleul. Je suis fier de toi. Alors, je te laisse, j'ai encore les juges qui sont à la porte. J'enlève mes espadrilles intérieures, je vais mettre mes gros souliers, je vais leur botter le cul, tu vas voir. Allez, petit Nicolas, tu vas le baiser du parrain.
Témoin suivant, monsieur Bonelli Laurent. Sociologue, expert en sécurité, monsieur Sarkozy Nicolas a été accusé de populisme sécuritaire, alors qu'évidemment le populisme sécuritaire ne date pas d'hier. Alors en quoi, monsieur Bonelli Laurent, Sarkozy Nicolas a-t-il apporté quelque chose de neuf ?
Effectivement, le populisme sécuritaire ou les liens de la droite avec la sécurité ne sont pas nouveaux. On se souvient, ou certains d'entre vous se souviennent, d'Alain Peyrefitte. On vient d'entendre à l'instant un témoin anonyme qui a joué un grand rôle dans la question de la sécurité à droite. Alors finalement, qu'est-ce qu'a apporté Nicolas Sarkozy à la sécurité ? Alors par rapport à ses prédécesseurs et à ses prédécesseurs immédiats, pas grand-chose. Je dirais pas grand-chose, il a plutôt repris la plupart des mesures qui avaient été faites auparavant par la droite, bien sûr, mais également par ses prédécesseurs de gauche. Et je crois qu'il est sans doute intéressant que quand Nicolas Sarkozy a présenté sa loi sur la sécurité intérieure, la LSI, il ait été appuyé chaleureusement par Daniel Vaillant, son prédécesseur, ou par des députés comme Julien Drey. Alors, quand je dis qu'il n'a pas fait grand-chose de nouveau, qu'a-t-il pas fait de nouveau ? Il a continué à déployer massivement les forces de police dans les quartiers populaires. Les CRS passent aujourd'hui 6 mois par an dans les quartiers dits sensibles. Bon. On a continué à déployer des forces de police avec de plus en plus d'effectifs dans les quartiers populaires. On a créé des nouvelles unités, les brigades anticriminalité par exemple. Nouveauté de Nicolas Sarkozy, les GIR, groupements d'intervention régionaux. Des policiers, des douaniers, des gendarmes qui arrivent à 6 heures du matin dans une cité et qui viennent tordre le cou aux trafiquants de drogue qui font la loi. Alors, je vais y revenir dans un instant. Qu'est-ce qui change finalement sur Nicolas Sarkozy ? Pas grand-chose, comme je viens de dire, par rapport à ses prédécesseurs. Le ton change, la manière change. On pourrait dire que ses prédécesseurs, notamment de gauche, avaient une sorte de sécurité honteuse. Ils faisaient de la sécurité. Daniel Vaillant a fait beaucoup plus que Nicolas Sarkozy en termes de mesures de sécurité. Il n'a pas fanfaronné dessus, il en a beaucoup moins parlé. Sarkozy, en revanche, je dirais, a fanfaronné très largement dans les médias. Si bien que les GIR, dont je viens de vous parler à l'instant, existaient déjà sous Daniel Vaillant, sous des formes un peu différentes. Nicolas Sarkozy est adjoint à côté de ses policiers, de ses gendarmes, de ses douaniers, des gens supplémentaires, les caméramans, par exemple. Qui veut dire que les forces d'intervention de police, donc qui se déploient le matin dans un quartier, portent et comportent à chaque fois effectivement une forte médiatisation. Pour quels résultats? Alors des résultats importants. J'ai ici les bilans d'activité des GIR. Je lis Noisy-le-Grand, donc 8 septembre 2002, saisie de 6 grammes de résine de cannabis. Je lis à côté 25 octobre 2002, Bastia, aucune saisie mais fort impact sur la population. On l'imagine. Tant si bien qu'en janvier 2003, quand on publie le premier bilan d'activité des GIR, après 8 mois, 209 opérations de police, ayant mobilisé plus de 1500 fonctionnaires, pour des saisies records de 4,6 kilos d'héroïne et de cocaïne, par exemple. Alors je crois que c'est important parce que les chiffres vont être véritablement la marotte de Nicolas Sarkozy. Attaquer la délinquance, combattre le crime pour Nicolas Sarkozy, ça va être avant tout jouer sur les chiffres. Et ça va vouloir dire faire parler les chiffres, et Nicolas Sarkozy a développé ce qu'il a appelé la culture du résultat chez les policiers. La culture du résultat chez les policiers, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire des primes pour les policiers qui travaillent bien, et des mauvaises notes pour les policiers qui travaillent mal. Et qu'est-ce que ça veut dire, cette culture du résultat, cette question finalement de faire du chiffre? Ça se traduit dans les pratiques de la police d'une manière assez simple. Arrêter un petit dealer en bas d'immeuble, ça vaut, en termes comptables, mener une enquête qui vise à démanteler un réseau de trafic de drogue. Bon. Qu'est-ce que ça a donné, concrètement? Une focalisation des policiers sur la délinquance la plus visible et surtout la plus facile à résoudre. C'est-à-dire des jeunes en bas d'immeuble, des prostituées, des roms, des sans-papiers. Là-dessus, effectivement, on fait du chiffre. Et quelque chose d'assez normal, je crois, et qui est assez mécanique, finalement, la France a battu les records d'incarcération qu'elle avait atteints à la libération. Il y a plus que jamais des gens en prison aujourd'hui, dans les prisons françaises. Alors, je dirais pour terminer, je crois que le passage de Nicolas Sarkozy aux finances, finalement, s'inscrit dans une sorte de logique. Que fait Nicolas Sarkozy quand il passe aux finances? Il accentue, il continue finalement les politiques libérales qui depuis le milieu des années 80 ont fait augmenter les inégalités en France. Tous les rapports de l'INSEE notamment sont formels. Dans les quartiers dits politiques de la ville, dans les quartiers dits sensibles, dans les quartiers populaires, les taux d'activité s'effondrent, le pouvoir d'achat s'effondre, la pauvreté galope. Et toutes les politiques urbaines qui ont été menées ont été incapables d'enrayer ce déclin. Et je crois que si on peut faire un reproche fondamental à Nicolas Sarkozy, c'est d'être l'un de ces politiciens, pas le seul, hélas pas le seul, l'un de ces politiciens qui vont participer d'un côté à développer des politiques économiques qui vont laminer les quartiers populaires, qui vont détruire les classes populaires, qui vont les précariser, les flexibiliser, comme le disait mon prédécesseur, et de l'autre, avoir la main dure, c'est-à-dire concentrer la répression, l'enfermement, finalement, des victimes de ces politiques-là. Et je crois que c'est sans doute le principal reproche que j'adresserai à Nicolas Sarkozy.
Merci. Monsieur le procureur, avez-vous des questions aux témoins?
Oui, j'ai des questions. Pourriez-vous nous fanfaronner à la mode de Sarkozy afin que la Cour puisse se faire une opinion d'une fanfaronnade?
Fanfaronnade, j'ai terrassé la délinquance.
Voulez-vous l'aide de la fanfare pour nous le faire en musique?
La délinquance est à terre. Grâce à moi, le crime tremble et les criminels aussi.
J'ai une autre question un tout petit peu plus technique. Pensez-vous que l'usage du flashball soit à la police ce que l'être et le néant est à la pensée existentialiste?
Pour votre indice.
Je vous remercie.
La défense. Des questions ?
Si je résume votre pensée sans la trahir, est-ce qu'on peut finalement dire que Nicolas Sarkozy est une sorte de monsieur vaillant sans complexe ou de monsieur Drey qui s'assumerait ? À une réserve près, c'est que lui, au moins, il a mis les forces de l'ordre au travail. Fini le Ricard au commissariat de police. Maintenant, on travaille.
Si nous avons quelques policiers dans la salle, on pourrait leur demander s'ils ont été enfin mis au travail par Nicolas Sarkozy, à savoir à quel travail Nicolas Sarkozy a-t-il mis les policiers. C'est sans doute la question qui est la plus pertinente.
Merci.
L'autre question ?
Je voudrais revenir à l'instant sur la double peine. Peut-on supposer que M. Sarkozy soit intervenu sur la double peine, craignant pour lui-même d'être renvoyé en Hongrie si cette cour venait à le condamner ?
C'est tout à fait plausible, effectivement.
Je vous remercie.
Merci, M. Laurent Bonelli.
Il nous vient tout droit d'Hongrie. Il est tout petit, Nicolas Sarkozy. Nosferatu du quai des orfèvres, le beau chic de dangue, grand oeil, le liaison, plantiez-vous le voilà. On l'adore chez tous les pandores, les CRS de lui les caresses. On va rêver de tous les poulets, la matraque, la plage fale, les menottes au radiateur, on va bientôt déguster. Hey. Quand il voit un rhum, tout de suite il le dégomme. Quand il voit un beurre, il fait chauffer le chardeur. Quand il voit un black, on entend voler les claques. Aïe, il est comme ça, notre Nicolas. Quand il voit un rhum, tout de suite il le dégomme. Quand il voit un beurre, il fait chauffer le charter. Quand il voit un black, on entend voler les claques. Aïe, il est comme ça, notre Nicolas. Attention les diables, Nicolas. Attention les filles de Sarkozy. Attention les diables, Nicolas. Attention les filles de Sarkozy. À quoi pense-t-il ? Aurait-il des ambitions ? Mais que fait-il ? Il s'approche de Matignon. À quoi rêve-t-il ? Veut-il se faire désirer ? Mais où va-t-il ? Il s'approche de l'Élysée. Il nous vient tout droit d'Hongrie. Il est tout petit, Nicolas Sarkozy. Nosferatu du quai des orfèvres, le régime il est dans longue, grandes oreilles, l'œil est sombre, planquez-vous le voilà. Quand il voit un rhum, tout de suite il le dégomme. Quand il voit un beurre, il fait chauffer le chardeur. Quand il voit un black, on entend voler les claques. Aïe, il est comme ça, notre Nicolas. Donne tes papiers.
Voilà, la séance reprend au TIMF, le tribunal de l'incompétence au service de la mauvaise foi, enregistré, je le rappelle, avant le retour de NS à l'intérieur et avant le nom des Français xénophobes. Suite de l'audience.
La cour.
Alors, témoin suivant, monsieur Saïmir Millet. Vous êtes président de l'association La Voix des Roms. Vous êtes vous-même Rome. Vous êtes d'origine albanaise, vous êtes chercheur, vous travaillez à un DEA sur les minorités sans territoire compact, c'est-à-dire les Roms, et vous avez, lors de l'instruction, accusé Monsieur Sarkozy de ziganophobie.
En fait, Monsieur le Président, l'accusation plus exactement était incitation à la ziganophobie en bande organisée.
C'est exact.
Et pourquoi cette accusation-là ? Eh bien, en bande organisée, il a, par des faits précis, il a créé une situation, ou alors des situations, qui nourrissent une ziganophobie déjà existante, mais qui la font monter à son paroxysme. Quels sont les faits précis ? En fin 2002, a choisi le roi, 600 policiers débarquent vers 6 heures du matin pour attraper en tout et pour tout une soixantaine de Roms, en comptant aussi les petits bébés. Bon, 10 policiers pour un bébé, je dois vous dire que c'est rentable, et c'est encore plus rentable quand on sait que pour l'opération, 3 hôtels sont réquisitionnés pour servir de centre de rétention le temps de l'instruction. Et lorsque les juges, vos collègues, Monsieur le Président, disent que la procédure a été irrégulière, Monsieur Sarkozy est bien gêné et il déclare, malgré sa qualité d'avocat, il déclare « Mais c'est quoi ces juges qui m'empêchent de faire mon boulot ?» Il s'attache finalement à des petits problèmes de procédure. Voilà. Il s'est passé à peu près la même chose à HR. Alors, voilà la bande organisée, mais elle n'est pas encore complète. On n'a jamais entendu parler des Roms dans les médias, ne serait-ce qu'un petit article qui présentait ce peuple, parce que c'en est un. C'est un peuple avec une langue, avec une histoire, avec une culture. Mais les médias se permettent parfois à diffuser des messages qui vont bien plus loin que ce que M. Sarkozy, qu'on accuse aujourd'hui, il a fait. Je parle notamment d'une émission à la télé qui s'intitule tout simplement « Délinquance, la route des Roms ». C'est la délinquance, toujours le discours sécuritaire, ou alors la belle musique tzigane. Ils sont gentils, mais autant qu'ils jouent de la musique, pas pour plus.
Merci. Est-ce que, monsieur le procureur, vous avez des questions à poser à notre témoin?
Juste une précision. Vous nous dites ils sont gentils, ils jouent de la musique. Pensez-vous que monsieur Sarkozy ait pu, par exemple, confondre les Roms et les CD-ROMs?
Merci. Merci beaucoup. Alors, un autre témoin sur la même question. Monsieur Henri Braun, vous êtes vous aussi un militant associatif dans une association de défense du droit des Roms. Saïmir Millet a évoqué cette émission de télévision au cours de laquelle, effectivement, d'après les documents en notre possession, les Roms en général auraient été... disqualifié, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que vous pouvez nous donner des précisions?
Oui, tout à fait. Il y a une série de plaintes qui ont été déposées contre cette émission qui a été diffusée le 11 février sur France 5 sous le titre « Délinquance, la route des Roms » dans le cadre de la série « C'est dans l'air » animée par Yves Calvi. Et donc, cette émission a fait l'objet d'une plainte devant le CSA, d'une plainte devant le procureur de la République et fera l'objet d'un procès pour provocation à la haine raciale. Pourquoi? Parce qu'il faut dénoncer la façon dont les médias parlent des Roms. Cette émission-là, eh bien, nous verrons, la justice tranchera. Mais pour le reste, globalement, nous avons deux discours sur les Roms. Un discours sécuritaire, un discours répressif à tendance raciste d'un côté, et de l'autre, nous avons un discours que je qualifierais d'humanitariste, de larmoyant, de pleurnichard, qui nous dit les pauvres, ils sont dans des bidonvilles et ils ne peuvent rien faire, il faut les aider. Mais nulle part, à aucun moment, on ne parle des Roms. On parle d'un côté de la délinquance, on parle de l'autre de l'exclusion, mais jamais, au grand jamais des Roms. Et c'est pour ça qu'il faut absolument changer cet état de choses. Mais alors, quel est le lien avec M. Sarkozy? Et bien évident que M. Sarkozy n'a aucune influence dans les médias. Bien évidemment. M. Sarkozy ne s'intéresse pas aux médias. M. Sarkozy vit comme une sorte d'anachorète sur son île et il n'a même pas la télévision chez lui. Bon, bien sûr. Mais enfin, ces médias, où prennent-ils leurs informations? Toutes ces informations terrifiantes avec tous ces Roms qui vont venir envahir notre beau pays. Eh bien, ils les prennent directement de la police. Cette police avec laquelle M. Sarkozy a quelques accointances. Et il faut savoir que M. Sarkozy a supervisé la création d'un office appelé Office central de lutte contre la délinquance itinérante. Et cet office, il vise 3 catégories de population bien différentes et qu'on amalgame à tort. Je les cite dans l'ordre. Les jeunes des banlieues difficiles, Suivez mon regard, les jeunes de banlieue, on sait ce que ça veut dire. Deuxième population, les gens du voyage français. Et troisième population, les Roms venus des pays de l'Est. Trois populations qui n'ont rien à voir entre elles et qui font l'objet d'un fichage, qui font l'objet d'une surveillance policière systématique, qui font l'objet d'un harcèlement policier avec cette culture du chiffre dont parlait tout à l'heure Laurent Bonelli. Et il y a là, je dirais, une collusion entre une politique sécuritaire menée au niveau français et au niveau européen et les médias. Et le rôle de M. Sarkozy dans cette affaire a été déterminant en tant que ministre de l'Intérieur, puisque on considère, on laisse penser que tout délinquant venu des Balkans est nécessairement un Rom. C'est-à-dire que dans l'esprit de beaucoup de gens, Rom, ça signifie ni plus ni moins que délinquant venu de Roumanie. Alors qu'en réalité, les Roms, sont un peuple qui a une histoire, qui a une culture propre et qui sont présents dans beaucoup de pays et pas seulement en Roumanie.
Procureur, avez-vous une question?
Juste une précision. Pensez-vous que les Roms puissent concurrencer de façon libre et non faussée les plombiers polonais?
C'est une très bonne question. Mais M. Sarkozy y a pensé, puisque M. Sarkozy s'intéresse aux Roms. Dans la loi, la fameuse loi du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure, qu'on peut qualifier de loi scélérate. Eh bien, dans cette loi, on voit trois articles qui s'appliquent spécifiquement aux Roms. Celui sur la privation de soins par mendicité, celui sur l'exploitation de la mendicité, et enfin cet article qui permet, lorsqu'on s'installe un véhicule sur un terrain, de confisquer le véhicule. Ces trois articles ont été pensés dans une optique de répression tziganophobe. Voilà ce que M. Sarkozy pense des Roms. Voilà ce qu'il veut faire avec eux. Et voilà ce qu'il faut dénoncer.
La défense. Vous avez cité l'exploitation de la mendicité au titre des lois que vous dénoncez. On sait pourtant qu'il y a eu des développements, effectivement, de réseaux d'exploitation de mendicité, d'enfants qui avaient été mutilés. Et donc, une loi a été votée pour essayer de mettre un terme à cette exploitation. Est-ce que vous dénoncez également, j'ai cru comprendre que vous dénonciez cette loi. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous dénoncez cette loi?
Le premier point, c'est que il y a effectivement des réseaux qui exploitent les enfants. Cela existe. Et il est fort possible qu'il y ait des Roms dans ces réseaux. Les Roms, comme tout un chacun, sont délinquants. Mais est-ce qu'ils le sont plus que les Picards, les Bretons ou les Basques? Rien n'est moins sûr. Le problème, c'est que on va stigmatiser cette population. Et enfin, cette loi, elle a été votée il y a 2 ans. Elle est entrée en application il y a 2 ans. Et quels sont les résultats? Où sont les procès? Où sont les réseaux démantelés? Où sont-ils? Quand on voit la police qui fait une descente sur un bidonville, qui arrête 50 personnes, dont la moitié pour défaut de papier, que sur la moitié qui reste, les 2/3 sont libérés au début de la procédure, et qu'à la fin on retrouve à l'instruction 2 ou 3 personnes, est-ce que cela est bien sérieux? Est-ce qu'il n'y a pas là une forme de harcèlement policier, de harcèlement judiciaire? Maître, à votre avis.
D'autres questions? Merci. Merci, Monsieur Braun. Et voilà, ça continue demain. Merci à tous, merci à l'ensemble des participants, au personnel du théâtre de Jazet, où cette audience a été enregistrée, par Philippe Etienne de Radio France. Merci à tous, merci Jérôme Bourdelon et son orchestre, la brigade d'intervention musicale, Marc Slipper, Michel Bachevalier, Laurent Pézère, les dessinateurs, évidemment vous ne les voyez pas dans la TSF, les dessinateurs c'était Cabu, Pierre Leroux, Luz et Jules, les journalistes Frédéric Pagès, Nicolas Beau, Bernard Maris, les avocats Henri Braun, Christophe Claire d'Oublier, les papous, Hervé Le Tellier qu'on verra demain, Henri Cueco, Gérard Morbia, le procureur, oui, Laurent Bonelli, sociologue, sarcologue, les sarcophobes, Saïmir Millet, le chercheur albanais, Camilla Cabral, qu'on retrouvera dans l'audience de demain, Bertrand Roté, le majordome du ministère des Finances, qu'on retrouvera demain, et Daniel Herzog, la voix des guignols, que vous avez peut-être reconnu. Aujourd'hui, la technique était assurée par Lydvine Caron et Stéphane Devernay. L'équipe de là-bas, si j'y suis, c'est Antoine Chaot qui a réalisé, monté cette audience et qui montera, j'espère, l'audience de demain. Yann Chouquet, Pascal Pascariello et Christophe Imbert, c'est la fine équipe. Le numéro du répondeur, c'est le 0156 40 37 37, 0156 40 37 37. Le mail de l'émission, c'est daniel.mermet@radiofrance.com. dans 1 minute 30 de réclame, vous retrouvez Frédéric Bonneau et Charivari. On se retrouve à demain à 17h pour la Basse-Suisse. Salut.
Somme tes papiers.